sur Radio Campus Tours, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et aujourd'hui, avec moi dans le studio, deux invités importants, bien sûr, deux stars. Je fais de la pub quand même, parce que je suis sûre que tout le monde nous écoute. Et nous avons le plaisir de recevoir Olivier Manoni. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes traducteur et nous avons également en studio Yann Dissez. Bonjour.
Bonjour.
Alors avant de donner la parole à notre traducteur Yann Dissez, peut-être voulez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes là tous les deux. En fait, il y a un contexte particulier.
Alors effectivement, il y a un contexte particulier, c'est que Cyclique Centre Val-de-Loire, qui est donc l'agence régionale du livre pour l'image et la culture, l'agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique, qui s'occupe d'accompagner toute la politique du livre, du cinéma et de l'audiovisuel en région Centre-Val-de-Loire, a créé une série de dossiers sur son site internet, le site livre de Cyclique, de dossiers pour mettre en avant, mettre en valeur, mettre la lumière sur un certain nombre de métiers du livre, et pour ce faire, sur un certain nombre de personnes, de personnalités qui vivent dans la région et qui exercent ces métiers. Et donc, nous avons donc consacré le 28e dossier de cette série au métier de traducteur à travers la personne d'Olivier Manoni.
Voilà, donc ce dossier, il a retrouvé bien sûr sur le site de Cyclique et il a été rédigé par Corinne Jeppner. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, Olivier Manoni.
Ah oui, c'est la présidente de l'association des traducteurs littéraires. C'est une traductrice d'allemande excellente, Corinna Jeppner en fait, parce qu'on prononce à l'allemande, c'est pas grave.
Autant pour moi.
Voilà, c'est une très bonne traductrice, puis une amie, voilà.
Et alors, il y a quelque chose d'important à signaler aussi à nos auditeurs, c'est que, outre le fait que vous êtes un traducteur local, hein, je crois que vous habitez à Autrèche, même Olivier Manoni, vous êtes aussi lié aux éditions de la Contre-Allée. Et là, Yann Dissez, je me tourne à nouveau vers vous, parce qu'il y a quand même quelque chose à signaler pour Cyclique.
Tout à fait, il y avait effectivement cette double occasion, puisque nous allons initier d'ici peu, dès le mois de novembre, une résidence d'éditeurs, ce qui est un peu une première. On expérimente avec Benoît Véril des éditions de la Contre-Allée tout au long de cette saison un auteur, un éditeur en résidence auprès de Cyclique Centre-Val-de-Loire et dans la région Centre-Val-de-Loire. Et donc il se trouve que cette maison d'édition, la Contre-Allée, vient donc de lancer une nouvelle collection qui s'appelle Contrebande, dont Corinna Jeppner a écrit l'un des premiers textes. Voilà, donc il y avait un espèce comme ça de faisceau, de rencontres autour de ces questions de la traduction, et ça nous semblait vraiment important de mettre la lumière sur ce métier.
Et alors, est-ce que ça existe ailleurs, des résidences d'éditeurs, ou est-ce que c'est vraiment une nouveauté inventée par Cyclique ?
Inventé par Cyclique, ce serait un peu prétentieux. À notre connaissance, il n'en existe pas d'autres pour le moment. Néanmoins, notre ami Pascal Jourdana, qui est directeur de la Villa La Marelle, qui se trouve à Marseille, dans la friche de la Belle de Mai, a eu au même moment, à peu près, un peu la même idée. Et donc, il va initier, à partir du mois de janvier également, une résidence d'éditeur avec Benoît Viraud, qui est l'éditeur des éditions Le Nouveau Attila, voilà, qui est quelqu'un qu'on connaît aussi, qui est bien, comme on dit, bien connu de nos services.
Et alors, Olivier Manoni, comment on vous a sollicité pour participer à cette collection ?
Personne ne m'a sollicité, parce qu'en fait, c'est une collection qu'on a conçue à quatre, avec quatre traducteurs qui font partie, enfin trois plus moi, qui font partie d'un projet plus ancien, qui est celui de l'école de traduction du CNL à Paris, donc avec des traducteurs professionnels qui partagent à peu près tous des lignées, sinon identiques, du moins voisines de travail, de militantisme, et qui à la fois veulent transmettre à une génération ou générations qui viennent leur savoir-faire, et d'autre part défendre une idée de la traduction aussi, qui est très littéraire, qui est très peu théorique, extrêmement fondée sur la pratique, et qui se sont aperçus qu'en fait, la meilleure manière de le faire, c'était de parler nous-mêmes de notre métier plutôt que de laisser d'autres le faire.
Alors qu'est-ce que vous allez raconter dans ces livres ? Qu'est-ce que vous allez dire ?
Alors, je ne peux pas parler pour les autres, même si je peux parler des très beaux premiers livres de Corinna et de Diane Meur, qui racontent simplement ce que c'est que le contact d'une vie avec la traduction et le rôle que joue la traduction dans une vie. Pour celui que je suis en train de travailler, je vais tenter d'essayer de montrer ce que c'est que la résistance d'un texte au sens pratiquement freudien du terme, c'est-à-dire à quel point traduire et rentrer dans une réalité qui est pas la nôtre, qui peut être aussi refoulée, et à quel point le travail qui consiste à se rendre maître d'un texte pour lui redonner sa liberté après est compliqué, je dirais pas laborieux parce que ça serait un peu ingrat, mais épuisant, au sens où ça peut exténuer l'esprit d'un traducteur qui va y passer un temps fou en tentant de chercher de trouver quelque chose qui est pratiquement introuvable, c'est-à-dire non seulement l'esprit de l'auteur, mais ce qui est caché derrière l'esprit de l'auteur et que l'auteur peut-être n'a pas intégré lui-même, ce que l'auteur a pu refouler. Voilà, ça sera là-dessus que je travaillerai pour ce qui me concerne.
Elle était nécessaire, cette collection ?
Alors, il y a des textes tout à fait importants qui sont sortis sur la traduction. Le problème que nous avons en ce moment, c'est que beaucoup de textes de traductologie sortent. Il y a plein de traductologues absolument passionnants, mais il y a un courant de la traductologie aujourd'hui qui tente, qui plutôt de nous expliquer comment nous devons travailler, au lieu de décrire la manière dont nous travaillons, comme l'avait fait Benjamin Berman ou Umberto Eco, qui eux-mêmes étaient des traducteurs praticiens. Donc nous nous sommes dit qu'expliquer notre travail nous-mêmes d'une manière assez intime, en fait, c'est surtout l'intimité de notre travail que nous voulons expliquer, était une bonne manière de répondre et de reprendre la main d'une certaine manière.
Et d'ailleurs, sur cette idée, comment dire, de transmettre une façon de travailler, il me semble même que vous avez, j'en profite puisque nous sommes une radio étudiante, et voilà, je vois là qu'il y a un projet d'école même, école de traduction littéraire.
Alors c'est bien plus qu'un projet, parce qu'en fait ça fonctionne, on en est à la sixième édition, qui va commencer en décembre, la cinquième s'achève, on a formé pour l'instant 90 jeunes traducteurs, qui sont pas des débutants, qui sont des traducteurs déjà engagés dans le métier, à qui on apprend des ficelles, celle de vieux routiers. Je compare toujours notre métier à celui de plombier, quoi. Donc, contrairement aux traductologues, on n'essaie pas de leur donner des cours de physique pour leur montrer comment fonctionne une soudure, ce qui peut être passionnant, mais ce qui permet jamais de faire une soudure. Mais on va leur apprendre concrètement comment pas se brûler les doigts et comment faire un coude avec le tuyau sans le casser. Il y a un truc tout simple, hein, il faut mettre un petit tuyau de lampe d'architecte dedans et l'enlever après, ça marche très très bien. Voilà, au niveau de la traduction, c'est ce qu'on essaie de leur enseigner, c'est-à-dire des techniques pour respecter un rythme, pour respecter la vivacité d'un dialogue, pour pas le rendre ridicule, pour rendre le romantisme d'un texte sans que ça verse dans le pathétique, etc., etc. Toutes les techniques d'écriture qui sont celles du traducteur. Et en fait, on fait pas du tout d'enseignement de langue, on est vraiment sur les techniques de la traduction.
Alors peut-être qu'il y a des étudiants en langue justement qui nous écoutent et peut-être que c'est... Est-ce que c'est une façon nouvelle, différente d'enseigner? Parce que ça peut être aussi très compliqué quand on apprend à la fac à traduire des textes. Peut-être qu'on apprend à vraiment à se coller au texte et des fois à traduire pas dans le mot à mot mais à faire des choses...
Ce que nous faisons n'a aucun rapport en fait avec ce que fait l'université, au moins jusqu'en licence. Après, il y a des masters de traduction qui commencent à aborder le véritable travail. Le véritable travail de traduction, il a rigoureusement rien à voir avec le travail de version qu'on peut faire en faculté. Je pense par exemple au concours d'agrégation. Si un traducteur professionnel venait passer ce concours, ça serait vraisemblablement catastrophique. Et à l'inverse, beaucoup d'excellents professeurs traducteurs de version qui ne maîtrisent pas les techniques de la traduction parce qu'ils les ont jamais pratiquées ou jamais apprises, même s'ils ont eu 18 sur 20, enfin, on peut toujours rêver à la grecque, risqueraient de se casser la figure sur un texte littéraire simplement par manque de technique. Ce sont deux techniques totalement différentes. En plus, l'école de traduction travaille non pas sur une langue, mais dans toutes les langues. C'est-à-dire que nous avons des promotions, il peut y avoir jusqu'à 12 ou 14 langues pratiquées. Des enseignants qui peuvent en pratiquer, d'autres qui ne sont pratiqués par personne. Et nous travaillons dans toutes ces langues ensemble, avec par exemple des mots à mots ou simplement des explications sur le texte, pour travailler sur toutes les thématiques que je vous ai données. Donc on est très très loin du cours de langue classique.
Mais est-ce que vous voulez expliquer un peu plus cette idée de traduction multilingue, comment ça marche?
Par exemple, Patrick Morus, qui est un professeur de chinois, vient devant 20 élèves, dont un au maximum parle chinois, c'est le plus que ce qu'on ait eu jusqu'ici, et nous propose la traduction de poèmes chinois du 15e siècle. Poèmes chinois du 15e siècle, ils ont été traduits en France à plusieurs reprises. Vous avez des traductions du 18e siècle, du 19e et du 20e. Les traductions du 18e siècle sont des traductions romantiques, avec tout ce que vous voyez sur toutes les caricatures qu'on peut avoir sur la Chine. Donc le poème, vous avez l'impression d'être devant un étang avec un pommier en fleurs. Le 19e, ça commence déjà un petit peu à bouger, c'est-à-dire que vous avez des traducteurs qui commencent à se rapprocher du texte plutôt que des images qui peuvent s'en faire. Donc, non pas des images que le texte leur donne, mais qu'eux se font du texte avant même de l'avoir lu. Et en plus de l'idée qu'ils se font de ce que le lecteur souhaite voir dans leur traduction. Donc ça fait tout un ensemble qui fait que la traduction du 18e, par exemple, sur ces textes-là, n'a plus rien à voir avec le texte d'origine. Et quand vous arrivez au 20e siècle, et notamment à la fin du 20e siècle, ou au début du 21e, vous avez des traductions de ces textes du 15e qui sont des reflets absolus de ce qu'est un poème chinois. Un poème chinois, c'est un texte où chaque mot doit être interprété en tant que tel, par le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur chinois va, avec sa sensibilité, lire dans le poème ce qui résonne en lui. Quand vous faites ce travail-là pour le rendre en français de la même manière, c'est-à-dire en ouvrant des portes au lieu de le refermer sur la scène idyllique du pommier à fleurs sur l'étang, eh bien vous apercevez que vous tentez de recommuniquer ces mêmes émotions qui passent par des mots polyvalents au lecteur. Et du coup, les traductions que vous faites qu'on a au 21e siècle de ces textes-là ont beaucoup plus à voir avec la poésie contemporaine française, par exemple André Dubouchet, qu'avec la poésie romantique du 18e. Donc on leur apprend en fait à revenir aux sources du texte, et après ils ont des exercices évidemment sur les mêmes poèmes où on leur donne simplement le mot à mot et où ils vont tenter de reconstituer quelque chose qui ressemble à ça. Vous allez me dire, ceux qui parlent pas le chinois, quel intérêt ça a pour eux? C'est que ce travail de recherche du mot, non pas en tant que tel, on fait pas de la littérarité, mais du mot pour ce qu'il véhicule d'émotion, de sens, de sous-entendu, cette recherche-là, on peut l'appliquer après dans n'importe quelle langue, et ça fonctionne très très bien.
Alors, vous dites, on est presque dans un travail de restauration d'œuvres d'art, en
oui,
fait.
Oui, oui, exactement, bien sûr, oui.
Ça fait penser à une icône, par exemple, qui restait très longtemps dans un lieu de culte, et du coup, on gratte pour arriver...
Ce type de restauration, on le fait beaucoup en ce moment. C'est pas un hasard, ça fait depuis 20 ans maintenant, il y a énormément de retraductions. C'est que ces techniques de traduction, qui sont pas du tout les miennes, toute la communauté des traducteurs travaille là-dessus depuis des décennies, et commence maintenant vraiment à avoir des accords sur le travail qu'on peut avoir pour rendre réellement les textes. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai retraduit récemment le texte sur le surréalisme de Walter Benjamin. Walter Benjamin, tous ses textes ont été traduits pratiquement par Maurice de Gandia, qui était un très bon traducteur, c'est-à-dire que les traductions sont techniquement très justes, mais il faisait ce que demandaient à l'époque les éditeurs, c'est-à-dire qu'il faisait du beau français. Donc le texte, il n'y a pas d'erreur majeure de traduction, mais quand vous lisez le texte, vous avez l'impression de quelque chose de très froid. Or, à cette époque-là, Walter Benjamin, qui est en France, se livre, enfin à Berlin puis en France, se livre avec son ami le docteur Frenkel à toutes sortes d'expériences avec le haschich. Et en fait, quand il écrit ce livre, quand je dis toutes sortes d'expériences, c'est tous les soirs, ils testent les camomilles, les cigarettes, les gâteaux, je crois qu'ils font même des trucs cuits avec, enfin des trucs plats chauds. Et donc, ils sont évidemment tous les deux dans un état assez second. Mais c'est avec cet état-là, et c'est pas finalement un mauvais état, que Walter Benjamin va capter le surréalisme. Mais du coup, son texte part un peu dans tous les sens, il y a des choses complètement folles dedans. Et quand on tente ça de remettre avec une cohérence logique et en bon français, on arrive sur à peu près tout à avoir un texte qui tient à peu près la route d'un point de vue strictement technique, du point de vue de la version justement, mais on gomme toutes les aspérités à la fois du langage, de la syntaxe, du rythme, etc., qui donnent son véritable charme et sa véritable portée au livre. Voilà, c'est un exemple très concret, et on refait beaucoup ça en ce moment.
Et alors, parce que là, vous dites c'est le travail qui est fait aujourd'hui par l'UTL, c'est ce qu'on apprend à l'UTL, mais comment ça va se passer, par exemple, dans 20 ou dans 30 ans? peut-être que ça, il y aura une autre façon de considérer les choses.
Bien
peut-être
entendu,
qu'on reviendra au pommier en fleurs ou que sais-je.
Bien entendu, tout est possible. On peut y revenir en particulier pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'on peut considérer que les lecteurs sont plus capables de lire nos textes et donc nous redemander de refaire effectivement quelque chose de beaucoup plus simple. C'est pas du tout de la science-fiction. C'est ce qu'on est en train de faire pour les livres pour enfants. Avec des textes d'une aussi grande complexité philosophique que le Club des Cinq et le Clan des Sept, qu'on est en train de réécrire de manière beaucoup plus simple, sans le passé simple, avec des phrases plus courtes, parce qu'on considère que les enfants d'aujourd'hui sont pas capables de lire ces textes, que je trouve absolument horrible. C'est d'un mépris invraisemblable. Et pour avoir aussi travaillé en traduction avec des adolescents, je sais que l'exigence fait au contraire, l'exigence de la traduction fait au contraire partie des choses qui éveillent l'esprit, et rabaisser les choses à ce niveau-là, ça me consterne. Donc oui, tout à fait, tout est possible, toutes les régressions sont toujours possibles dans la vie et dans ce pays.
Bon, je propose peut-être, je vois que vous avez apporté des livres, c'est quoi?
Alors c'est trois livres, parce que en fait vous m'aviez demandé éventuellement d'apporter des lectures.
Oui, bah oui, je mets les invités à contribution.
Et en fait, alors je vous ai choisi trois livres. Un livre de philosophie de Peter Sloterdijk, un philosophe que je traduis depuis 20 ans. Un livre de poèmes du pianiste Alfred Brendel, que j'adore, et qui allait bien avec la musique aussi dont je vous avais parlé. Et un livre tout récent de Robert Ménas qui s'appelle La Capitale. Voilà.
Vous voulez lire peut-être un extrait du livre de poèmes avant qu'on fasse une pause musicale?
Tout à fait, surtout que ça va être très très rapide. Et puis, finalement, c'est peut-être assez proche de tout ce qu'on vient de dire.
Il n'y a pas de hasard, alors.
Alors, juste rappeler que, enfin, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'Alfred Brendel est un des plus grands pianistes du 20e et du début du 21e siècle, qui a malheureusement raccroché son piano il y a 4 ou 5 ans maintenant. Un homme merveilleux, avec qui j'ai travaillé avec un plaisir incroyable. Et un pianiste qui a une imagination absolument débordante et une précision de la langue que j'adore. Et je vous, y a pas de titre, y a un thème, mais je vous laisse le deviner. Devina-t-il quelque chose, cette face de charogne, lorsque, dressé de tout mon haut, je me présentais devant lui. Il se tenait là, accroupi, solennel, tandis que je lui faisais l'inventaire de ses péchés, d'abord tranquille, puis m'échauffant peu à peu, jusqu'à ce que je me mette à brûler, que mes ailes se colorent et crépitent, et que de mon séant jaillisse une queue noire comme charbon, tendue vers l'infini. Je fouettais désormais les étoiles pour que, s'éteignant, elles disparaissent dans l'obscurité, prélude à une nouvelle et pitoyable théodicée.
Merci. Et alors, cette pause musicale, vous avez choisi un artiste. Est-ce que vous voulez nous dire lequel et pourquoi?
Alors, c'est un artiste qui s'appelle Avishai Cohen, qui est un des plus grands contrebassistes contemporains. C'est un homme qui fait avec cet instrument des choses absolument éblouissantes. On va, j'espère, l'entendre dans ce morceau. Il m'intéresse aussi parce que il a tenté de renouer deux traditions, la vieille tradition de la musique juive et plus précisément de la musique ladino, c'est-à-dire la musique espagnole d'avant l'exode, et puis le jazz contemporain, mais un jazz extrêmement musical, extrêmement harmonieux, et c'est un homme en plus tout à fait extraordinaire, d'une intelligence éblouissante, que j'ai eu la chance d'aller voir cet été à Marciac, et ça a été un très très grand moment de musique.
Voilà, donc nous écoutons Avishai Cohen, et c'est même le trio Avishai Cohen. Voilà, je me fie aux playlists de Radio Campus Tour, puisque figurez-vous que nous avons Avishai Cohen dans nos playlists. Donc on écoute ça et on se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tour.
We'll be right back.
Avishai Cohen sur Radio Campus Tours, vous écoutez La Méridienne et je suis toujours en studio avec mes deux invités. Ah, on ne m'entend pas dans mon micro, je ne sais pas pourquoi. Allô ? Je pense que c'est mieux. Alors, je suis toujours avec mes deux invités, Olivier Manoni, traducteur, et Yann Dissez, vous représentez Cyclic. Je crois d'ailleurs que vous vouliez nous parler d'un événement qui se profile en lien avec l'Université de Tours.
Tout à fait, effectivement, puisqu'on est sur Radio Campus, je voulais en profiter pour signaler que dans le cadre de sa résidence d'éditeur, donc Benoît Viril interviendra, probablement en compagnie d'un traducteur, au sein de l'enseignement de Guillaume Saint-Gall, des étudiants de Guillaume Saint-Gall. Donc il y aura un certain nombre de rencontres qui sont en train de se mettre en place autour de ces questions de traduction. Et autour de la collection Contrebande. Et puis on réfléchit également, là c'est en cours de préparation et de réflexion, à un événement public un petit peu plus important précisément voilà, autour de cette collection Contrebande et de la question de la traduction. Voilà, donc date à préciser ultérieurement, mais je crois savoir que nous nous retrouverons ici même dans quelques semaines en compagnie de Benoît Viril. Je pense qu'à ce moment-là, on aura un peu plus d'informations à communiquer.
Voilà, c'est pour maintenir le suspense, bien sûr. Alors, Olivier Manoni, je me tourne vers vous, puisque vous évoquiez tout à l'heure dans le travail de traducteur qu'on ne sort pas indemne de certaines traductions. Voilà, par exemple, vous avez traduit Mein Kampf, il me semble, vous avez travaillé là-dessus, et vous dites aussi « le traducteur essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens ». Alors, du coup, je mets ces deux éléments en parallèle. Qu'est-ce que vous voudriez en dire ?
Alors, c'est amusant. La polémique sur Mein Kampf vient de repartir ce matin à la suite d'un tout petit articulé. Donc, on fait comme si tout ça... Bon, juste deux mots, parce que j'ai pas envie de m'éterniser dessus. Mein Kampf est un texte absolument essentiel pour comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui souffre de paranoïa raciste. C'est aussi essentiel pour savoir ce qui se passe en ce moment. Par exemple, si on s'imagine que la théorie du grand remplacement est l'œuvre d'un médiocre écrivain français du XXIe siècle, on se trompe. La théorie du grand remplacement est dans le chapitre 11 de la première partie de Mein Kampf. Quand on entend le discours de l'extrême droite aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont tout inventé. Quand, par exemple, une leader d'un parti d'extrême droite, dont j'ai oublié le nom, parle d'invasion bactérienne, vous avez aussi ça chez Hitler. Ce texte existe en France depuis toujours. Il a été interdit une seule fois, c'était par Hitler en fait en 34, qui voulait pas que ça soit publié en France. Et depuis, il existe, il est en vente libre dans une traduction qui a les mêmes caractéristiques que ce dont on parle depuis le début, c'est-à-dire une traduction qui rend justice au texte à l'ancienne, c'est-à-dire en faisant une belle langue. Or, c'est une langue qui est complètement confuse, difficilement compréhensible, surchargée d'adjectifs, parfois octeuse, saccadée. Et alors, se mettre dans la tête des gens, ça veut dire que, en l'occurrence, on se demande pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est cette langue, comment ça fonctionne, et quand vous avez compris comment elle fonctionne et à quoi elle sert, vous avez compris pas mal de choses, et notamment la manière de le traduire. Cette langue fonctionne comme une espèce de gigantesque roue. Moi, je voyais littéralement une croix gammée broyer le langage devant moi quand je traduisais. Elle en fait une espèce de bouillie mentale qui anesthésie totalement le lecteur, qui engourdit son esprit, mais à la fin, vous avez toujours trois ou quatre phrases extrêmement claires, extrêmement ostentatoires, extrêmement simples, qui sont, après tout ça, présentées comme des évidences, le terme d'un raisonnement qui s'impose parce que la conclusion est simple, et donc le raisonnement est bon. Ce sont des méthodes absolument redoutables. La traduction, traduire ces textes, retraduire ces textes en montrant comment ça fonctionnait, ça a plusieurs intérêts. D'abord, ça permet de retourner aux sources de ces textes, parce que sur lesquels on a dit énormément de bêtises. Ensuite, ça permet aussi de prendre conscience comment fonctionne le langage d'extrême droite à l'heure actuelle. Toute proportion gardée, j'ai travaillé plusieurs fois avec Bérangère Viennot qui travaille sur la traduction des textes de Trump. Et on a dans la structure syntaxique, dans l'utilisation de la confusion mentale, qui à mon avis est volontaire aussi chez Trump en bonne partie, des traits communs de manipulation du langage qui sont tout à fait intéressants à connaître. Vouloir combattre ça, c'est malheureusement pas se fermer les yeux dessus, c'est voir comment ça fonctionne, le comprendre, l'analyser. La traduction est un excellent outil d'analyse.
D'ailleurs, puisque vous dites le mot analyse, dans ce que vous expliquez, il y a une parenté évidente avec le travail de psychanalyste, quand même, entre celui de traducteur et de psychanalyste. D'ailleurs, vous avez travaillé sur les textes de Freud aussi.
Alors, j'ai retraduit beaucoup maintenant de textes de Freud, oui, oui. Oui, j'ai parlé tout à l'heure de résistance, de recherche du refoulé, c'est-à-dire que quand vous êtes face à une traduction, vous êtes face à un texte qui dit des choses. Souvent, le plus intéressant, c'est ce qui n'est pas dit, c'est ce qui est derrière. Notre travail n'est pas de restituer ce qui n'est pas dit, c'est-à-dire qu'un auteur qui ne dit pas, on n'a pas à dire à sa place ce qu'il n'a pas voulu dire. Mais si on restitue un texte sans être allé chercher, nous, ce qu'on pense que c'est refoulé, ce dont on pense que c'est refoulé, on ne comprend pas le texte. Et donc, tout reste dans le flou, dans l'ambiguïté. Et ça ne fonctionne pas. Je peux vous donner un exemple très concret, si vous voulez. Chez Martin Suter, qui est un de mes auteurs préférés, il y a régulièrement des personnages qui boivent avec précaution. Vorsichtig, en allemand. La première fois que je l'ai rencontré, c'était un roman extraordinaire qui s'appelle La face cachée de la lune, qui parle de la violence humaine, qui raconte l'histoire d'un avocat qui, à la suite de la consommation, ben là encore, d'un champignon chargé au LSD, perd complètement le nord, ou plus exactement se retrouve lui-même, et se voit face à sa propre personnalité, qui est d'une violence absolument extraordinaire. C'est un avocat spécialisé dans les démantèlements d'entreprises, dans ce qu'on appelle les plans sociaux. Et donc sa brutalité, qui s'exprime juste dans son métier, se met à s'exprimer, mais physiquement, c'est-à-dire qu'il se met à tuer des gens. Et un autre tueur, qui lui est banquier, qui a compris quel était le problème, va décider littéralement de partir à la chasse à cet homme. Et à un moment, il se retrouve face à face. Et c'est le banquier qui prend cette tasse et regarde Vorsichtig. Je me suis toujours demandé, en fait j'ai compris, c'est simplement que ce banquier est tellement attentif à l'ennemi qui est en face de lui, à la bête qu'il va traquer, et qu'il va traquer physiquement avec un fusil, qu'il ne le quitte jamais des yeux. Et que quand il prend sa tasse, il est les yeux au-dessus de la tasse, et il ne descend pas les yeux dans son café. Voilà. Quand je l'ai compris, après j'ai retrouvé ce terme-là plusieurs fois chez Martin Suter. À un moment, je lui ai demandé, mais Martin, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est bien ça? Et Martin m'a dit avec son accent suisse délicieux, ah mais je ne sais pas du tout, Olivier. Je pense que vous avez raison. Et voilà, donc là oui on est dans une espèce de psychanalyse de nos auteurs sans aller trop loin parce qu'on ne doit pas non plus faire de la surinterprétation et tenter d'essayer de comprendre des choses. Mais dans le cas de Martin Suter par exemple, Martin Suter est quelqu'un qui a perdu un enfant en bas âge il y a quelques années, qui a écrit tout un roman après qui s'appelle Le Temps, qui était magnifique, que moi j'ai lu comme un roman sur le deuil. Je l'ai rendu à l'éditrice Dominique Bourgois en lui disant il parle de son enfant, c'est bouleversant. Et quand Dominique lui a dit, Olivier l'a trouvé magnifique et vraiment, il a compris que c'était un roman sur le deuil. Là, pour le coup, Martin lui dit, mais absolument pas, c'est pas du tout ça. Et 6 mois après, il lui a dit, vous savez, Olivier a raison. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans la psychanalyse, mais cela dit, moi, j'ai pas à surinterpréter, à dire c'est ça. Je sors de là en disant, voilà, mon travail m'a dit à moi que c'était ce sens-là.
Mais alors, comment on fait? Parce qu'il y a aussi une question d'honnêteté intellectuelle, parce que si vous lisez entre les lignes, justement, des choses. Comment vous faites? Parce que si vous les évacuez, quelque part, vous trahissez le texte aussi. Et si vous les rendez trop évidentes, là, vous manquez de respect aussi à l'auteur. Donc comment vous trouvez ce juste milieu?
Si l'auteur procède par allusion, je vais essayer de retrouver des allusions identiques, c'est tout. En sans les pousser, alors autant que possible, parce que tout ça c'est de la théorie, dans la réalité c'est extrêmement compliqué à faire, sans les pousser dans le sens que je trouve juste. Ça vaut dans tous les romans, ça vaut beaucoup dans les textes d'histoire, où il faut être extrêmement prudent, parce que le choix d'un mot peut faire passer un texte historique d'un point à l'autre, faire d'un texte plutôt orienté, disons, vers la gauche, un texte qui sera plutôt orienté à droite, simplement parce que vous avez choisi un terme qui n'est pas le bon ou qui est trop connoté. Voilà, donc on est très précautionneux avec ça, vorsichtig, parce que précisément ça peut aller dans n'importe quel sens. Pour l'allemand par exemple, aucun traducteur n'emploie plus le mot collaboration. Pour nous il est piégé. Si j'utilise ça dans un livre d'histoire en disant c'était un partisan de la collaboration avec la Suisse par exemple, immédiatement dans l'oreille du lecteur, même sans la réflexion, le lecteur ira dans cette direction-là, et si c'est répété plusieurs fois dans le livre, on peut déformer un livre avec ça. Donc c'est surtout de la prudence. Et puis quand même une part d'interprétation, parce que sans interprétation, il n'y a pas de traduction. Dans les joutes de traduction qu'organise l'Association des traducteurs littéraires de France, on a souvent deux traducteurs qui se confrontent, qui s'affrontent pas, mais qui se confrontent autour d'un même texte, qu'ils ont travaillé chacun de leur côté sans se connaître. Et vous vous apercevez que dans les deux cas, vous avez deux traductions qui peuvent être excellentes et totalement différentes les unes des autres.
Alors, est-ce qu'il y a des garde-fous aussi, comment dire, est-ce que vous êtes dans l'idée de faut pas surinterpréter, mais comment vous êtes sûr, parfois, que vous ne plaquez pas vos propres représentations sur un texte? Je veux dire, tiens, j'ai l'impression que je crois lire ça, mais est-ce que c'est pas vous, en fait? Comment vous arrivez à garder une distance?
Le premier garde-fou, c'est la connaissance de la langue. Si j'ai un personnage qui dit « je ne suis pas d'accord » et que je traduis « allez vous faire voir », je tords son langage et je transforme quelqu'un qui a prononcé une phrase normale et polie en quelqu'un... Bon, ça veut dire que j'ai fait le choix de donner au livre une violence qui n'est pas dedans. Donc ça, c'est le premier point. Après, on a quand même aussi des regards extérieurs, heureusement. D'abord, on a le regard de l'auteur quand on a la chance de le connaître. On peut toujours lui demander où il veut aller et comment il veut aller. C'est limité parce que, d'abord, je vous l'ai dit, un auteur ne sait pas toujours répondre à ces questions-là. Et ensuite, si on lui demande de prendre le manche à balai dans l'avion à notre place, c'est lui qui conduit, c'est plus nous. Et les résultats sont en général, quand ça se passe comme ça, pas bons, parce que l'auteur n'est pas un traducteur et qui peut pas se traduire lui-même à part de très très rares cas. Et puis on a l'éditeur qui joue un rôle, et là on pourra en reparler aussi avec l'éditeur. Il y a un moment où l'éditeur nous dit « j'ai l'impression que là ça sonne faux, qu'il y a quelque chose qui va pas ». Donc ça peut être sa lecture, on peut défendre la nôtre, mais quand un éditeur me dit ça en général, c'est que je sais qu'il y a quelque part où je suis effectivement allé trop loin ou pas assez loin, où j'ai dévié à la fois de mon objectif et du livre que je suis en train de traduire.
Est-ce qu'il y a des livres, est-ce que ça vous est arrivé de refuser de traduire quelque chose parce que vous c'était trop compliqué, vous compreniez pas où la personne voulait en venir ou...
Alors, il m'est arrivé de refuser notamment des textes de la littérature classique allemande, simplement parce que c'est pas mon métier. Moi, je suis un traducteur d'auteurs contemporains, aussi bien en sciences humaines qu'en littérature, et par exemple, traduire du Kleist, traduire je me suis attaqué une fois à Goethe, mais c'était pour réviser simplement une traduction d'un de mes professeurs qui avait un peu vieilli, donc j'ai juste fait du rafraîchissement. Donc ça, je le fais pas. Et puis après, il y a des textes que politiquement, je ne fais pas non plus. La première chose que j'ai refusé de faire, ce qui boucle la boucle, il y a très très longtemps, c'est un livre sur les aquarelles de Hitler, qui n'apportait strictement rien, qui était en plus plutôt mièvre, et donc extrêmement dangereux à mon avis, mais 40 000 fois plus dangereux que de bien publier Mein Kampf, et l'éditeur m'en a voulu toute sa vie. Voilà.
Ça vous fait rire, Yann Disset?
Ouais, ça me fait sourire.
Pourquoi?
Je sais pas, il n'y a pas de raison particulière. Le fait que effectivement l'éditeur puisse en vouloir comme ça un traducteur de refuser un texte, voilà, c'est quelque chose qui me fait sourire, à la fois me questionne.
Bon. Avant qu'on fasse une autre pause musicale, est-ce que vous voulez nous lire un autre extrait, Olivier Manoni?
Ah, vous voulez un peu de philosophie?
Allez,
volontiers.
Volontiers.
Alors, c'est un texte de Peter Sloterdijk. Peter Sloterdijk, c'est un grand monsieur qui a fêté tout récemment ses 70 ans, qui est une des figures majeures de la philosophie en Allemagne, mais qui est totalement sorti de ce qu'on connaît de la philosophie allemande, c'est-à-dire une philosophie très austère, très systématique, qui tente aussi, et c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait, de mêler la philosophie à la littérature. Et j'ai choisi un bref passage où il décrit, d'après un dessin qui s'appelle Bubbles, d'un monsieur qui s'appelle Avery, où il décrit un enfant qui suit du regard une bulle qui est en train de se former, qui est pour lui la métaphore du monde et de l'individu qui est en cours de formation. Et c'est un texte d'une beauté, à mon avis, extraordinaire, qui est dans un chapitre qui s'appelle « Les alliés ou la commune soufflée ». Et je le lis. « L'enfant auquel on a fait le cadeau se tient sur le balcon, fébrile, et suit des yeux les bulles de savon qu'il souffle dans le ciel à partir de l'anneau qu'il tient devant sa bouche. Voilà qu'un essaim de petites bulles jaillit vers les hauteurs. Son allégresse chaotique rappelle un lancer de billes nacrées bleues. Ensuite, lors d'une tentative ultérieure, c'est un gros ballon ovale qui se détache du petit cercle, tremblant, empli d'une vie anxieuse. La brise l'emporte et il descend en planant dans la rue. L'espoir de l'enfant ravi le suit. L'enfant en personne s'élève dans l'espace avec sa bulle miraculeuse, comme si, pendant quelques secondes, son destin était suspendu à celui de cette structure tressaillante. Lorsque la bulle éclate enfin, après un vol tremblant et languissant, l'artiste de la bulle de savon sur son balcon émet un son qui est à la fois un soupir et un cri jubilatoire. Pendant le laps de temps où la bulle a vécu, le souffleur a été hors de lui, comme si l'existence de la bulle avait dépendu du fait qu'elle demeura enveloppée dans une attention qui accompagnait son vol. Tout manque d'accompagnement, toute négligence dans l'espoir et le tremblement qui escorte cette bulle dans son vol aurait condamné cette chose scintillante à un échec prématuré. Même si, plongée dans la veille enthousiaste qu'exerçait son créateur, elle était autorisée à traverser l'espace en planant pour un instant merveilleux, elle était pourtant condamnée, au bout du compte, à se dissoudre dans le néant.
Merci Olivier Manoni pour cette lecture et nous faisons une nouvelle pause musicale sur Radio Campus Tours.
Thank you.
Avishai Cohen sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours La Méridienne et je suis toujours en studio avec Yann Dissez et Olivier Manoni. Alors, Olivier Manoni, à votre avis, c'est quoi une langue maternelle ? Ah, la question a...
C'est une question extraordinaire, non ? C'est une belle question. C'est une belle question parce que tout à l'heure, on parlait des problèmes de migration. Et une langue maternelle, c'est une langue qu'on a choisie pour mère, d'une certaine manière, ou pour berceau. Et parfois, on ne le choisit pas, on est dedans. Mais tant de gens, et on ne s'en rend pas compte, tant de gens ont fait de leur langue maternelle une langue qui n'était justement pas celle du berceau où elle était née, qu'on peut effectivement poser la question de tout autre terme, c'est-à-dire qu'à un moment, la langue maternelle, c'est celle qui permet d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, d'une certaine manière. Y a des écrivains qui ont fait de leur langue d'écriture leur langue maternelle, après avoir rompu avec leur pays, après, voilà. Et puis il y a des écrivains qui aussi reviennent à une langue maternelle qui n'était pas forcément la leur ou qu'ils ont entendue, pour des raisons, par exemple, politiques. Je pense aux Corses, je pense aux Catalans, qui en prennent plein la figure en ce moment, ou aux Basques, pour ne parler que de la France, de gens qui sont allés rechercher quelque chose qui, pas forcément du tout pour des raisons nationalistes, mais pour des raisons de musique qu'ils ont entendues dans leur enfance, sont allés chercher autre chose. Et recréer autre chose avec. J'ai un exemple très concret, c'est l'écrivain Jérôme Ferrari, qui écrit en français, mais qui écrit aussi en corse, et qui traduit du corse vers le français. Et je sais pas ce qu'il répondrait si on lui demande quelle est sa langue maternelle. Voilà.
Et alors, parce que l'allemand, enfin, c'est pas un hasard si vous êtes intéressé à l'allemand, c'est une langue qui était chez vous quand vous étiez enfant, je crois.
C'était littéralement une langue maternelle, puisque ma mère était professeure et traductrice, et mon père professeur d'allemand aussi. Donc j'ai littéralement baigné dedans. J'ai, tout petit, j'ai eu droit à des cours d'allemand pratiquement au biberon. Il y a des discussions interminables de terminologie à table dont je me rappelle encore, c'est donc que ça m'a vraiment marqué. Oui, bien entendu. Après, ma langue maternelle reste le français, mais avec cette interrogation systématique et qu'on m'a communiquée là, dès mon enfance, sur la signification réelle de ce que veulent dire les mots. Je crois que j'ai vraiment grandi avec ça, avec l'idée qu'un mot en soi n'était rien et qu'il fallait chercher derrière. Ce qui nous ramène encore une fois à la psychanalyse et à Freud. Voilà, c'est la... En plus, alors du coup, la langue maternelle, alors là, si on va vers Freud, ça devient... Il y a un fameux texte de George Arthur Goldschmidt qui s'appelle... Quand Freud voit la mer, M-E-R, et qui est consacré à ça, quoi, ses rapports, lui, avec la langue allemande. Goldschmidt est un exemple parfait de quelqu'un qui a pratiquement changé de langue maternelle. Goldschmidt qui a grandi dans la persécution, mais dans la langue allemande, et qui a choisi après la langue française, qui est devenu traducteur vers le français de Peter Handke, mais qui écrit en allemand quand il écrit lui. C'est le parfait exemple de la complexité de ce que peut être une langue maternelle, de ce qu'elle peut exprimer dans le rapport au monde, dans le rapport au passé, à l'histoire personnelle et universelle.
Donc l'allemand, c'est une langue familière. Il y a aussi l'idée peut-être de cette idée du mot des insaisissables, puisque vous parliez de Freud avec cette idée de...
Oui, l'allemand est une langue extrêmement intéressante parce qu'elle est d'abord ultra déterminée. En allemand, par exemple, quand vous dites je vais quelque part, vous allez dire dans le verbe que vous utilisez si vous y allez en voiture, en avion ou à pied. Et en plus, vous pourrez rajouter encore des nuances pour dire si vous y allez vite ou pas vite. Vous pouvez hingehen, hinfahren, hinrasen, aller à toute vitesse quelque part. Voilà, tout est possible. À la fois, elle est surdéterminée et à la fois, elle laisse une immense part d'ambivalence dans une bonne partie de ces termes. Et donc, elle permet beaucoup d'interprétations. Ça a d'ailleurs parfois fait son malheur parce qu'elle est du coup assez malléable politiquement aussi. Adorno, dans un texte qu'on vient de publier chez Climat sur l'extrême droite, montre que précisément cette malléabilité est utilisée pour retourner les réalités. Donc voilà, c'est une question qu'on peut en permanence se poser à son sujet. Et du coup, je crois qu'en se posant des questions sur ce que veulent dire les mots, on se pose aussi simplement des questions sur le monde et sur la réalité qu'on a face à nous.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des œuvres qui existent, qui ont été écrites parce que l'auteur était dans tel environnement linguistique, dans telle langue, et qu'elles n'auraient pas pu exister dans une autre langue d'origine?
Elles peuvent toujours exister dans une autre langue. Simplement, un auteur qui choisit une langue, il va la choisir à un moment donné pour ce qu'il veut dire. Il y a plein d'auteurs d'origine allemande qui ont changé de langue et qui ont joué avec les deux langues en fonction de ce qu'ils voulaient écrire. Je pense à Koestler. On le sait peu, mais Le Zéro et l'Infini a été écrit en allemand. Nous n'en connaissons que la version américaine, qu'il a réécrit après lui-même en américain. Et les deux versions sont assez divergentes, et en particulier Koestler, quand il écrit en américain, rogne toute une partie de la brutalité du texte allemand, sur lequel j'ai eu la chance de traduire, mais malheureusement le résultat n'a jamais été publié pour des raisons de droit. Par exemple, dans le Zéro et l'Infini, il y a beaucoup de choses qui concernent en allemand la religion et des attaques contre la religion qui sont assez virulentes. Et dans la version que nous connaissons, c'est-à-dire la version américaine qui a été traduite, tout ça a complètement disparu. Autre exemple, Anna Arendt, qui de temps en temps écrit en allemand. Elle écrit par exemple un texte qui en allemand s'appelle Vita Activa et qu'on connaît nous sous le nom de La Condition de l'Homme Moderne, mais c'est un titre qui a été retraduit de l'américain. Et quand Hannah Arendt réécrit Vita Activa pour en faire ce texte américain, elle change pratiquement tout, au point que quand on traduit son texte en allemand, on est obligé d'aller rechercher l'allemand pour dire voilà ce qu'elle écrivait à l'époque, quand on a des citations de l'original. Après, est-ce que, si votre question est de savoir si un écrivain est contraint d'écrire dans une langue parce que ce qu'il a à dire va avec, franchement, je ne pense pas. Je pense que le langage littéraire est universel. Il nous donne des outils. Je ne pense pas qu'il y ait des choses qui ne puissent pas passer d'une langue à l'autre, même des choses extraordinairement complexes. Quand je fais des stages avec des traducteurs étrangers, je leur donne souvent un passage de Flaubert, de Madame Bovary, qui commence par une bizarrerie grammaticale. C'est un passage qui, enfin, ça commence par « Ce fut un dimanche de décembre, virgule, il neigeait ». Donc un tout petit glissement du passé simple vers l'imparfait. Et j'ai travaillé ça notamment avec des traducteurs chinois et algériens, donc en arabe. Deux langues où le temps n'existe pas en tant que tel, le temps des verbes n'existe pas. Et on a tenté de reconstituer ça ensemble, et ça a été magnifique, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé des solutions linguistiques en comprenant ce que pouvait vouloir dire un français qui utilisait un passé simple, puis un imparfait, c'est-à-dire simplement le fait qu'exceptionnellement dans la vie d'Emma Bovary et dans la neige qui recouvre toute la Normandie déjà très plate, un passé simple, quelque chose qui se passe, un épisode, et ça c'est vraiment Flaubert en plus tout craché, cette maîtrise extraordinaire de la langue et de la grammaire, il fallait le restituer. Et dans les deux cas, alors je serais incapable de vous dire aujourd'hui comment ils ont fait, mais quand ils me l'ont expliqué, c'était magnifique. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des solutions linguistiques chez eux. C'est-à-dire qu'avec ce travail de la traduction, qui est un travail aussi de passage entre les peuples et entre les esprits, on peut quand même faire énormément de choses.
Merci Olivier Manouni pour cette réponse. Et comme malheureusement cette émission touche déjà à sa fin, je propose que l'on écoute la chronique de Clara, la chronique culinaire. Parce qu'après tout, il est presque une heure et peut-être, chers auditeurs, que vous êtes à table. Donc nous écoutons la chronique de Clara, elle nous parle de la cuisine française.
Bonjour, c'est Clara, depuis Lille, au nord de la France. L'année dernière, j'étudiais en Lituanie, un petit pays au nord-est de l'Europe. Et les Lituaniens sont très fiers de leur plat national, les tsepelinei ou zeppelin en français. Alors, à chaque conversation culinaire, ils s'en vantaient de leur zeppelin, leur plat national. Mais bien souvent, ils ajoutaient « Et vous, en France, c'est quoi votre plat national ?»« Et nous, en France, c'est quoi notre plat national ?» Bonne question. J'aurais été tentée de répondre le steak frites. Mais, à y réfléchir, moi qui viens du Nord, si je mange des frites du Sud, elles ne seront sûrement pas à mon goût. Alors, c'est quoi notre plat national? Le pain? Mais ce n'est pas un plat. En fait, nous n'avons pas de plat national. Des plats régionaux, oui. Dans le Nord, nous avons le moule frites. En Alsace, ils ont la choucroute. La Bretagne a ses crêpes. Le Sud-Ouest, son cassoulet. Mais un plat français, un seul, Non, c'est impossible à définir. Chez moi, j'ai même trouvé un livre, L'art culinaire français, par nos grands maîtres de la cuisine, aux éditions Flammarion. Un livre qui pèse son poids et doit bien faire 5 bons centimètres d'épaisseur. C'est ça la cuisine française, une foultitude de recettes et des spécialités régionales. Eh bien oui, ce livre est d'ailleurs organisé par région. Au lieu de parler d'une cuisine française, on devrait donc évoquer plusieurs cuisines françaises. Mais à y réfléchir, cela s'applique aussi à d'autres régions ou continents. Et oui, sans connaître les produits, les ustensiles, les modes de cuisson, ou encore les us et coutumes de chacun, c'est compliqué de différencier. Qui n'a jamais eu recours à l'expression « la cuisine africaine », désignant la cuisine de l'Afrique subsaharienne? Mais pour un Français moyen, qui ne connaît pas bien la géographie de cette partie du monde, qu'un plat soit du Togo, du Sénégal ou de Côte d'Ivoire, ce sera un peu du pareil au même. Autre exemple avec la cuisine asiatique. Si devant vous, on dépose 2 assiettes, l'une contient un plat chinois, l'autre un plat thaï. Sans aucune indication, seriez-vous capable de distinguer lequel vient d'où? Et si on en vient à la cuisine nord-africaine, seriez-vous capable de distinguer un couscous marocain d'un couscous algérien si vous n'avez pas d'attache avec ces pays? Et la cuisine européenne dans tout ça, y avez-vous déjà pensé? L'expression n'est pas beaucoup utilisée en France. Cuisine européenne. La cuisine française se démarque de celle de ses voisins, c'est sûr. Mais surtout, nous connaissons nos ingrédients, nos ustensiles, nos modes de cuisson et nos us et coutumes. Alors tout cela nous semble évident, ça coule de source. Bien sûr que la cuisine italienne est différente de la cuisine française, qui est elle-même différente de la cuisine allemande. La seule entorse à cette dénomination de la cuisine par continent ou région géographique, ce sont les restaurants. On mange chinois ce soir, ou bien mexicain, thaï, italien, japonais même. Ici, ce sont bel et bien des pays qui sont représentés. Mais si un plat thaï se glissait dans la carte d'un restaurant chinois, seriez-vous capable de le deviner? Pas sûr. On se fie au restaurateur avant tout pour la composition de son menu, de sa carte. Alors, ce soir, vous mangez de la cuisine d'où?
Bonne question, Clara. Alors, avant de se quitter, Olivier Manoni et Yann Dissez, c'est quoi pour vous un plat typique français? Vous répondriez quoi à Clara? Ah, la question à...
Y entre.
Voilà. Qu'est-ce que vous répondriez à Clara? C'est quoi un plat typique français? Vous citeriez quoi?
Si je vous réponds le ragoût de veau à la Corse.
Pourquoi pas?
Et la complète bretonne, par exemple.
Voilà, bon, eh ben, on a eu vos réponses, j'espère que Clara nous écoute. Oui.
Mais je peux dire que pour moi, le couscous est aussi un plat typiquement français.
Voilà, j'espère que ça fera des réactions parmi nos auditeurs et qu'on aura des retours après cette affirmation d'Olivier Manoni. Mais grand merci à vous, messieurs, d'être venus dans la Méridienne. Et peut-être qu'on peut rappeler une dernière fois où est-ce qu'on peut lire, Yann Dissez, l'article qui est consacré par Cyclic à Olivier Manoni.
Tout à fait, il se trouve sur le site livre de Cyclic. Vous pouvez également trouver toutes les informations concernant la résidence d'éditeur des éditions de la Contre-Allée, des liens vers la collection Contrebande que l'on a évoquée.
Et voilà. Et pour finir, Olivier Manoni, est-ce que vous avez un site, peut-être un blog ou quelque chose où on peut aller lire
J'ai mon site qui est très très peu actif. Quand on veut me rencontrer, on me trouve facilement sur Twitter, où je suis tout à fait ouvert au dialogue et aux réponses, du coup.
Mais en caractère limité, cependant.
Oui, mais c'est bien, vous savez, c'est un exercice, c'est comme faire du sous-titrage, c'est un exercice très proche de ce que faisait l'Oulipo, et c'est utile.
Voilà, à bons entendeurs, cette émission est évidemment à retrouver en podcast sur notre site radiocampustour.com et sera rediffusée ce soir à minuit. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.
Merci.